philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 19 avril 1989.
On va continuer cette réflexion sur la philosophie de la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire au plan philosophique ? Nous avions vu, si on partit du mouvement, puisqu'il faut toujours partir du mouvement, ce qui est mu. Et ce qui est mu, à partir de là, discerner que ce mouvement implique une détermination. Tout mouvement naturel implique une détermination. Que ce mouvement naturel se distingue du mouvement artificiel et du mouvement volontaire, du projet et de l'intention, et qu'il est un appétit. On met un mot, inclination. Et que ce mouvement implique une détermination. Que ces mouvements sont divers, et nous pouvons induire par là la phusis. N'hésitez jamais de me dire s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne, parce que vous n'avez pas suffisamment saisi. Étant donné que nous essayons là d'avancer sur un terrain difficile, la phusis, qui est principe d'efficacité et qui implique détermination et matière. Bon, ça c'est le premier point, je crois, très important à bien déterminer. C'est cette première démarche inductive qui consiste à découvrir la phusis. Faut tout le temps y revenir. Vous découvrez la phusis, vous découvrez l'âme, vous découvrez l'ousia. Et il faut bien comprendre la différence qui existe entre ces trois inductions, qui sont irréductibles. Et comprendre que la phusis, ça fait par le point de vue de la cause efficiente. L'âme aussi. Entièrement, puisque vous avez une expérience de l'âme. Et l'expérience de l'âme, d'intériorité, par l'intériorité, vous met en contact immédiat avec la forme. Tandis que la phusis n'est pas d'expérience interne. Et donc, c'est vraiment la causalité efficiente dans toute sa force que vous saisissez. Causalité efficiente, complexe, qui va tout de suite impliquer le point de vue de la forme et de la matière. Les anciens, alors ici, critiques de la position d'Aristote, voir qu'est-ce que nous pouvons garder. Les anciens parlaient d'inquintessence. Je ne crois pas qu'on puisse garder ce qu'ils disent, mais ne supprimons pas trop vite. Et essayons de trouver quelque chose que nous devons garder pour maintenir une philosophie de la nature. Oui.
Les orientaux disent qu'il y a cinq éléments. Le cinquième, ils l'appellent l'éther.
Oui, c'est la quintessence.
C'est la quintessence.
Oui. Parce que c'est le quintessence, c'est le cinquième élément. Oui. Alors que vous dites l'éther ou la quintessence, c'est exactement la même chose. Parce que l'éther n'a pas de sens, point de vue scientifique. Et philosophiquement, j'aime mieux quintessence, parce qu'on dit simplement cinquième élément, qu'on ne précise pas. Et qu'on le précise uniquement du côté matériel, en disant que c'est une matière incorruptible. Alors, vous voyez comment il le pose. Il le pose à partir des quatre éléments. Donc, comprenons pour nous, puisque nous faisons plus. Premièrement, découverte de la poésie, c'est l'activité. Deuxièmement, la pause. Quatrièmement, avions vu ça. Les quatre éléments que vous posez à partir des mouvements les plus simples au point de vue physique. C'est le fondement sur lequel tout repose. La pédoc dira les quatre racines. C'est assez joli. C'est métaphorique, mais c'est beau. Les quatre racines du monde physique, plutôt qu'éléments. Eh bien, ça, c'est le pose. Et alors, cinquième élément, point d'interrogation. La quintessence. Oui, c'est important parce que la quintessence pour les anciens, c'était ce qui permettait d'avoir l'unité du monde physique. C'est ça qui faisait l'unité du monde physique. Parce que les quatre éléments sont toujours en mouvement. Ils sont toujours en mouvement réciproque. À la fois, c'est l'aller et le retour. Ça qui explique comment le monde physique comme tel est tout le temps devenu. Ça, les anciens disaient, il n'y a pas de repos dans le mouvement physique. Le repos sera du côté de la quintessence. L'unité peut être mouvement. Là, on est tout le temps dans le mouvement. Il y a un mouvement incessant qui fait bien comprendre le côté fondamental de la phusis. C'est le côté fondamental de la phusis, les quatre éléments. Vous connaissez la phusis par les quatre éléments? Oui.
Vous pourriez repréciser comment on découvre les quatre éléments?
Oui. Il y a deux manières. En fait, Aristote les donne de façon différente. Il les donne par le mouvement. Il les donne par les qualités. Alors, par le mouvement, c'est très simple, c'est justement ce petit jeune. Et c'est le mouvement naturel qui va vers le haut, le feu. Le feu monte toujours. L'élément naturel qui va vers le bas, la terre. Voilà la contradiction. Et comme on est en devenir, il y a des éléments intermédiaires. Il y a l'air. Et le point de vue de l'eau. L'eau est du côté de la terre et l'air est du feu. Ça, c'est les métaxus. Ce qui est intéressant, c'est voir la terre et le feu. La terre et le feu donnent les deux extrêmes, et comme on est dans le devenir, les deux extrêmes ne peuvent se rencontrer que par les deux intermédiaires. La terre et le feu ne se rencontrent jamais. Quand ils se rencontrent dans le couloir, ils ne se saluent pas. L'élément feu monte, l'élément terre descente. Oui. Alors c'est pour ça qu'on disait, les anciens cherchaient quel est le centre de la terre comme point d'attraction. Parce qu'il y a la descente, il faut bien un point d'attraction. Quelle est l'attraction du côté du feu? Le feu se terminait dans la quintessence. Et la terre était le point central de tous les divers. Donc il y avait cette vision tout à fait un peu imaginative, si vous voulez, mais qui était en même temps le sens commun. La terre était le point central dans lequel tous les éléments étaient tout appliqués. Et le feu était au contraire ce qui permet à la terre d'être unie au monde céleste. Il y avait toute cette vision un peu métaphorique. Par le point de vue du mouvement, on n'arrive pas à préciser. Ça reste quantitatif, un mouvement physique, un mouvement circulaire. pour le mouvement des corps célestes et les deux autres mouvements contraires en opposition dialectique vers le haut et vers le bas, qu'on retrouve du reste dans le structuralisme, mouvement vers le haut et vers le bas, le structuralisme de l'exégèse de Saint Jean, c'est de regarder que tout l'évangile de Saint Jean, c'est vers le haut et vers le bas, en montant et en descendant. C'est vrai. Et on verra à partir de là toute l'exégèse de Saint Jean. Jésus monte vers Jérusalem. Jésus descend vers la Galilée. Donc il y a une montée et une descente. Ça n'apprend pas beaucoup, j'avoue. C'est pas parce que j'étais. La montée vers le ciel et la descente vers les enfers. Il y a toujours un peu ça. Et c'est comme ça qu'on dit que le chapitre 6, c'est la plus grande des descentes. J'ai dit qu'il est le pain. C'est le livre, je ne sais plus de qui a fait ça. Je l'ai lu parce que ça m'intéressait de voir comment on pouvait appliquer le structuralisme à l'exégèse. C'est court. On n'avance pas à grand-chose. Pas étonnant, puisque la vie divine, comme les divines, est au-delà du physique. Et on applique des éléments physiques à la vie divine. Donc ça ne peut être que l'aspect tout à fait accidentel, le conditionnement, c'est tout. Mais rien de ce qu'est la vie divine. Alors, je crois que la révélation, elle est faite pour nous donner ce que c'est que la vie divine. Mais, donc, on prend une méthode qui ne dit rien de l'essentiel. Et on ramène tout à ça. On fusille tout. Alors, ici, deuxièmement, les qualités. Chaud. Humide et sec. Et ces quatre qualités qui sont des sensibles propres. Chaud et froid, humide et sec. Qu'on va trouver en opposition et selon leur combinaison, vous avez les quatre éléments. C'est très facile à voir. Bon. Puisque le chaud, dans la mesure où il domine, le chaud et le sec peuvent aller ensemble. Le chaud et l'humidité ne vont jamais ensemble. C'est qu'elle chauffe un peu plus, il y aura plus d'humidité. Donc c'est le chaud et le sec. Et c'est le froid et l'humidité.
Ça semble un peu une construction.
Quoi ?
Ça semble un peu une construction.
Ça semble un peu une construction, et d'autre part, c'est commandé par les sensibles propres. C'est une construction parce que c'est le pose. C'est pas le test. Les choses qui s'assemblent, les choses qui s'y sont. Un peu dialectique. Parce que, point de vue dialectique, c'est que le chaud ne peut jamais être avec l'humide, ne peut jamais être avec le froid. C'est la contradiction. Et l'autre aussi. Donc vous avez deux contradictions, deux contraires.
C'est là que le structuralisme est intéressant. Mais c'est le seul endroit où il est intéressant.
C'est le seul endroit où il peut dire quelque chose. Parce que vous avez un aspect dialectique de construction, des contraires. Mais c'est la dialectique des contraires, pas des contradictions. C'est là où ça peut être vrai. Parce que dans tout mouvement, vous avez deux contraires. Il ne faut pas oublier ça. Tout est commandé par ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Le contraire est un sujet. C'est le livre premier du physique, qui est, je crois, un livre critique. Et tout est commandé par ça. Pour que le monde, pour que le devenir physique existe, il faut toujours deux contraires et un sujet. Alors vous allez voir où se trouve, dans l'aspect le plus élémentaire, ces deux contraires et ce sujet. C'est au contraire chaud et froid, sec. Vous avez donc deux couples de contraires qui vont nécessairement impliquer quatre sujets. Autrement, ça s'oppose. Et c'est comme ça que vous avez les quatre éléments qui donnent la structure. Qui donne la structure de notre monde physique. notre monde physique est fait de cette structure. Je vois pas comment on peut changer. Si vous gardez les sensibles propres, si vous les supprimez, évidemment, c'est les sensibles propres du toucher, pas du monde physique. C'est pas les sensibles propres de la vision. La vision ne vous donnerait pas les éléments. Donc, mais c'est à partir de là qu'il y a ça. Et au contraire, le sujet ne vous dise rien de la nature. C'est ça qui serait intéressant à regarder. Mais la différence entre ce livre premier et le livre 2 d'Alphusis, que nous dit les contraires et le sujet, que nous dit l'Alphusis, au point de vue de l'intelligibilité du monde physique, des réalités naturelles. Les deux contraires et le sujet nous donnent l'intelligibilité du mouvement. Qu'est-ce qui est premièrement connu dans le monde physique ? C'est ce qui est mu. Or, ce qui est mu implique toujours de contraire un sujet. Oui, c'est deux contraires qui ne peuvent pas exister simultanément dans le même sujet. Vous voyez la différence avec la dialectique ? Parce que la dialectique fait la synthèse des contraires. Juste inverse. Parce que ces deux contraires, chaud et froid, s'excluent et ne peuvent pas coexister au même sujet. On pourrait dire au contraire l'aspect dialectique. Avec thèse et antithèse et synthèse. Alors, la synthèse englobe les deux. Alors que dans la vision du réalisme d'Aristote, je crois que c'est là toute la structure de l'esprit. C'est très bête, très élémentaire. Mais si vous acceptez ça, toutes les qualités de dégringolent. Montrer, parce qu'il est difficile. Mais tous les qualités dégringolent. Parce que le sujet ne supporte qu'un contraire. Il ne peut pas supporter de contraire. Donc, il faut que la synthèse ne soit plus sujet. Et qu'elle soit synthèse. Mais le sujet, or, le sujet, c'est ce qui existe. Le jugement d'existence dans le devenir est présent dans ce qui est. C'est pas le sujet. Et non pas dans les contraires. Les contraires sont au niveau des formes. Et pas directement au niveau de l'être. Tandis que le sujet est directement au sujet de l'être. Il existe. Et c'est l'exister qui ne peut pas supporter la simultanéité des autres. C'est l'être qui ne peut pas accepter que les deux contraires soient simultanés. Tandis qu'au contraire, au niveau de l'intelligibilité, mettez le chien à côté. Vous avez l'intelligence. Des contraires, c'est juste des contradictoires au niveau de l'esprit. Ceci est, ceci n'est pas. Affirmation et négation. Tous les deux se réservent à l'intelligence. L'intelligence fait la synthèse des contradictoires. Et le sujet s'oppose.
C'est exactement ce que dit Hegel dans le dernier chapitre sur l'esprit absolu. Il dit l'esprit devient sujet. Sa grande intuition, c'est ça.
Évidemment. l'esprit devient sujet. Vous voyez tout ça. Alors l'esprit n'est pas sujet. Il est source. Des deux contraires. Des contradictoires. Oui.
Oui, il ne voit plus le sujet que comme quantité, comme du point de vue de l'intelligence, du point de vue de ce qui est. C'est plus le sujet dans son existence.
N'existe que le rationnel, au fond, que l'intelligence. Or le sujet possède quelque chose qui est irrationnel, l'implique la matière. Mais de l'autre côté, non. Je crois que tout est là, dans cette réflexion profonde de ces deux points de vue-là. Contradictoire, au contraire. C'est pour ça que c'est si important, le petit tableau d'Aristote, des oppositions. L'opposition des relatifs, de la privation, des contraires et des contradictoires. En fait, plutôt, l'opposition des relatifs, des contraires, de la privation et des contradictoires. L'ordre. Et c'est à partir de cette structure, l'opposition exprime la structure de l'esprit dans son conditionnement, pas la finalité. La structure de l'esprit. Toutes les opérations de l'esprit se ramènent à ça, se ramènent à ces quatre oppositions. Pourquoi ? Parce que pour opposer, il faut diviser. Et l'intelligence divise dans son conditionnement. Affirmation et négation. Quelqu'un dit quelque chose, mais non, c'est pas ça, c'est idiot. Vous opposez tout de suite. Et vous opposez par la négation. Ça, c'est tout à fait élémentaire. Alors, c'est le propre d'une intelligence liée au sens. Affirmation et négation. Est-ce que les anges affirment et disent ? Ce serait la question à poser à Hegel, comme théologien. Est-ce que les anges pensent dialectiquement ? Vous voyez, à Hegel, il lui manque un traité des anges. Si Hegel avait fait un traité des anges, Hegel ne serait pas tombé dans la dialectique. Et saint Thomas a fait un traité des anges, de la supériorité de saint Thomas sur Hegel. C'est d'abord fait un traité des anges. C'est pour ça que c'est le docteur angélique. Tandis que Hegel, c'est le docteur de la dialectique. Je crois que c'est ça, fondamentalement. Parce qu'il faut aller loin pour dévisser. Une fois qu'on a mis le petit doigt dedans, donc il faut voir ce qu'il a manqué, ce qu'il n'a pas dit. Les manques. C'est pas dans ce qui est positif. Là, vous ferez toujours prendre. Mais c'est dans les manques. Vous êtes théologien et les anges. Mais, on fait comme Brigitte. Hein. Et là, dit Brigitte. Et là, vous dites, et les anges. Enfin, c'est égal. Où est-ce que vous les fourrez? C'est plus facile de faire que l'homme soit Dieu que l'homme soit l'ange. C'est curieux, ça. Parce que Dieu est trine. Alors, par la Trinité, on peut faire que Dieu soit l'homme. Mais si on regarde uniquement la simplicité du Créateur, c'est impossible. Mais, parce que la Trinité, c'est comme le conditionnement, le super conditionnement de Dieu. C'est le superpose, la Trinité. Alors, par la Trinité, il y a un lien entre Dieu et l'homme. Tandis que diesti, la simplicité, impossible. La dialectique ne dit rien sur la simplicité. On ne peut pas. fixité sur Dieu est commandé par la simplicité. Par la simplicité, je comprends les anges, je comprends l'homme, dans sa finalité. Tandis que par la Trinité, je regarde le conditionnement. Le conditionnement de l'homme. Alors, le conditionnement de l'ange, c'est pas grand-chose. Donc, vous voyez, alors, c'est les quatre positions qui donnent la manière dont notre intelligence divise. Le conditionnement d'intelligence, il divise. Dieu ne divise pas. Démoniaque. Parce que toute division présuppose une unité. Un tout. Toute division présuppose une unité. Alors, si je suis en face de quelque chose d'absolument simple, je ne peux pas diviser. Si je suis en face d'un tout, je peux diviser. Donc, fondamentalement, il y a une option du tout avant le simple. Je crois. Mais ça, c'est l'a priori affectif qui est sous-jacent à toute la dialectique. Parce que si la division vient du tout, je comprendrai comment ce tout peut être divisé dialectiquement. Mais la synthèse, c'est tout. Il faut bien retrouver le point de départ au terme. Le tout confus et le tout intelligible par la dialectique. Le tout appelle la dialectique. Le tout demande d'être divisé. Il demande la dialectique. Alors, là encore, c'est toute la diversité des tout sont amenés à un seul.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a comme une inversion d'intelligibilité? Parce que, au fond, Le simple n'est plus intelligible.
Alors que le simple est suprêmement intelligible. Je dirais que le simple dépasse tout conditionnement.
Et dans la dialectique,
dire que Dieu est absolument simple, c'est la signature d'une théologie qui implique la finalité. Et d'une théologie qui est au-delà de tout conditionnement. Je dirais, le simple est au-dessus de la raison, conditionnement de notre intelligence. Parce qu'il est au-dessus de toute division. Au-dessus de toute division. Tandis que le tout implique la division. Et au fond, c'est là la chose intéressante à voir. Qu'est-ce qui est fondement d'une philosophie? Premier attribut de Dieu, la simplicité.
Oui. Le jugement, oui. Même saint Thomas ne souligne pas assez que c'est le jugement qui rejoint la simplicité. Et, vous voyez, l'appréhension, elle est toujours un peu en face du tout.
Tout ça, c'est la fragilité de saint Thomas. Mm-hmm. Vous voyez, d'où est née la scolastique? On insisterait plus aujourd'hui sur l'irréductibilité du jugement par rapport à l'appréhension. Ce qui est saisi par l'appréhension et ce qui n'est pas saisi par l'appréhension. Ça ne le fait pas. Puisque même dans son commentaire de la métaphysique, à un moment donné, saint Thomas parle de l'appréhension de l'être. Successifs à partir de saint Thomas, le grand déraillement occupe. En fonction de tous les déraillements successifs, on doit insister beaucoup plus sur le jugement d'existence aujourd'hui permet d'éviter Hegel. Parce qu'on pourrait regarder dehors gamma Hegel et voir qu'il y a une continuité. Le déraillement est là. Parce que je crois qu'il y a une continuité dehors gamma Hegel. Et que c'est les rapports de l'appréhension et du jugement qui, en définitive, vont expliquer la structure fondamentale de l'intelligence. Mais bon, alors nous retournons vers nos éléments. C'est beaucoup plus terre à terre, hein, les éléments. Et c'est le point de vue de la contrariété. Je n'explique pas le devenir par la contradiction. Là, il faudrait se demander si la dialectique hegélienne peut expliquer le mouvement physique. On peut pas. C'est pour ça que la dialectique hegélienne est dialogale. Tout de suite. Elle ne peut pas expliquer le monde physique. Le monde physique s'explique par le point de vue du sujet et des contraires. Si vous ramenez tout à l'intelligence rationnelle, parce que c'est l'intelligence rationnelle, vous avez la contradiction et le dépassement de la contradiction dans l'intelligence, par le point de vue de la vie. Bon, alors, les contraires et le dépassement des contraires, le point de vue de la quintessence. Alors, je me pose la question, c'est là. Qu'est-ce que nous devons garder de ce cinquième élément ? Qui est très très important dans la perspective d'Aristote. Remarquez, hein, je le dis tout de suite, la physique d'Aristote ne repose pas sur la connaissance. Donc même si je bifle la la physique d'Aristote demeure. Mais elle est amputée. On lui coupe la tête. Parce que la finalité propre et immanente au monde physique n'existe plus. Et c'est là où je suis devant quelque chose qui, philosophiquement parlant, est imparfait. Alors que pour Aristote, la philosophie de la nature était parfaite grâce à la quintessence, grâce au mouvement circulaire. Alors, je vais poser la question. La quintessence, elle est posée de deux manières par Aristote. Le mouvement circulaire et la lumière. Cinquième élément, mouvement circulaire. Même ce qu'on retient habituellement. Et la lumière. Alors, doivent garder les deux éléments. Par où ? Vous voyez ? C'est ça qui est très curieux. Par où, de fait, je rejoins l'expérience. Donc la quintessence est posée quand même à partir de l'expérience, dans une induction. Elle n'est pas posée pour, premièrement, pour unifier les quatre éléments. Ils sont quatre, il doit y en avoir un premier. Au contraire, comment les unifier ? Alors on pose un cinquième. Mais ce cinquième est posé directement à partir de l'expérience du mouvement circulaire et de la lumière. Alors, pouvons-nous aujourd'hui garder encore le mouvement circulaire ? C'est très délicat. physique moderne dira que le mot circulaire, que les anciens considéraient comme absolument régulier et parfait, ne l'est pas. Il n'est pas absolument parfait, régulier. Oui ?
Est-ce que vous considérez que le mouvement circulaire soit un élément ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer d'en chercher le fondement de ce mouvement circulaire ? Le mouvement comme tel est pas un élément ?
Je crois ce que les anciens disent avant.
Oui,
mais critiquer.
Pour nous.
Oui, pour nous. On verra pour nous. Je crois que c'est par la lumière. Je crois que c'est plus par la lumière que par le mouvement. Mais ça, on va voir ça. Je crois. Oui.
Quand même, par le mouvement, même si on dit que ce n'est pas un mouvement circulaire régulier.
Ce n'est pas gênant.
C'est pas gênant.
Parce que nous acceptons la matière. Et la matière est source toujours d'irrégularité. Vous voyez, on flanquerait ça. Par exemple, dans toute communauté, il y en a toujours un qui arrive en retard. Dans la grande communauté de l'univers, il y en a un qui arrive toujours en retard. C'est pour ça qu'Arissa te cesse de dire Odin Pluribus. Vous voyez, Odin Pluribus, la plupart du temps, à cause de la causalité matérielle, je dois toujours ajouter ce bémol au déploré. Ça enlève, vous voyez, le caractère de nécessité absolue, donc de perfection. Parce que je mettrai le au déploré vous jusque dans le monde céleste. Au déploré vous. À partir de là, c'est très bien. Je peux dire, il y a un mouvement circulaire. Qui n'est pas aussi parfait que disaient les anciens. Ben, il y a un mouvement circulaire. Je ne peux pas nier qu'il y a un mouvement circulaire. Ou c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais il y a un mouvement circulaire. C'est bien évident qu'on voit le Soleil faire son mouvement régulièrement. Odin Pluribus, régulièrement. Et je me situe par rapport à cela. Si la philosophie ne peut pas s'abstraire de l'homme, ben je suis bien obligé de reconnaître que je suis enveloppé de ce mouvement circulaire. Donc, je maintiens ce mouvement circulaire avec le bémol Odin Pluribus. Mais ce qui est normal, et Aristote était logique, et nous sommes logiques de notre côté. Aristote était logique parce que la matière de la quatessence était une matière tout à fait particulière qui n'impliquait pas de corruptibilité. C'est la matière d'Adam, vous voyez, incorruptible. Adam est incorruptible. Donc c'était la quatessence. Tandis que toutes les réalités sublunaires sont corruptibles. Est-ce que l'homme est corruptible ou incorruptible? Tout dépend de savoir de quelle matière il est fait. S'il est de la matière corruptible, il est corruptible. Mais la grâce peut supprimer ça, peut dominer ça, mais seulement par la grâce. Parce que la matière fondamentalement est corruptible. Donc, la lumière, c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. La lumière pour Aristote, pour saint Thomas, parce que saint Thomas suit Aristote là-dessus, et ce qui permet de comprendre l'unité. Et le mouvement circulaire permet de comprendre la nécessité, je crois, et de comprendre que dans l'immanence du monde physique, il y a une certaine finalité. Parce que le propre du mouvement circulaire, c'est pour ça qu'il est parfait, c'est le serpent qui mord sa queue. C'est qu'un point, n'importe quel point du cercle, est le point de départ et le terme. Et ils se rejoignent. Et c'est en ça qu'il y a une fin. immanente. Donc, grâce au mouvement circulaire, il y a une fin immanente dans le monde physique. Le monde physique a une certaine fin immanente. Et grâce à la lumière, le monde physique a une unité. Ce sont les deux aspects importants pour comprendre la perfection de notre monde physique. La lumière fait l'unité. Et ça, je suis obligé de le reconnaître. Alors, la lumière est-elle au-delà du mouvement? Ou la lumière est-elle dans le mouvement? La question qu'on va se poser. Et ça, c'est très important. Et la science ne peut pas le dire. Hein? C'est-à-dire, oh, mais la science me dit pas ça. La science ne peut pas dire ce qu'est la lumière. Parce que c'est un sensible propre. Donc seul le philosophe peut dire ce que c'est que la lumière. Ça serait un très bel article à dire. Ça révolutionnerait les gens. Ça les mettrait en furie. Mais c'est très bien. Réfléchissez là-dessus. Parce que c'est très important. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de votre mort.
cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 21 avril 1989.
Par rapport à ce que nous avons vu précédemment, oui, oui.
Par rapport au mouvement circulaire.
Oui.
Vous dites que le monde est rempli de mouvements circulaires.
Oui.
C'est une apparence de mouvement circulaire uniquement parce que la Terre tourne, elle voit le reste.
Le mouvement circulaire, oui.
Oui, le mouvement circulaire des astres. Il est uniquement par rapport à nous.
Forcément. Je ne peux pas sortir de moi. Si tu restes là, c'est forcé. Notre philosophie de l'univers, comme toute la philosophie par rapport à l'homme, c'est la différence avec ce que les savants appellent leur objectivité propre. C'est pour ça qu'en définitive, les savants n'aboutissent qu'à une seule objectivité. Boransky, c'était ça, la logique. Il n'y a que la logique qui est objective. C'est encore se mettre le doigt dans l'œil, parce que la logique, c'est l'être de raison, et donc c'est purement subjectif à l'homme. Alors, vous pouvez arriver à dire qu'il n'y a plus aucune objectivité propre. Qu'est-ce qu'on entend par objectivité? Si vous faites de l'objectivité en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'était le gros problème de Platon. La forme en soi. Toutes nos connaissances philosophiques sont liées à l'homme. C'est le propre de la connaissance philosophique. Parce que le philosophe est conscient que toute connaissance est humaine. Puisque toute connaissance est humaine, mais je ne peux faire que la philosophie de l'homme. Je ne peux pas faire la philosophie de l'ange. Je ne peux pas faire la métaphysique de Dieu. Par la foi, je peux connaître un peu ce que Dieu pense. Mais comme la foi ne me donne aucun nouveau concept, la foi ne me donne que des jugements. Et c'est pour ça qu'en définitive, c'est toujours négatif. Vous voyez ? Et c'est là problème, je crois, très, très important de la théologie. La philosophie est positive. Elle cherche ce qu'est la réalité. Mais elle la cherche toujours par rapport à l'homme. Même l'être, je veux dire, il n'y a aucune objectivité. Pardon. Dans la subjectivité humaine, je peux saisir l'au-delà du conditionnement. Et je saisis quelque chose d'objectif. Ce quelque chose objectif se ramène à quoi? À ce qui est. Et uniquement à ça. L'objectivité philosophique ne peut exister qu'au niveau métaphysique. C'est pour ça que le jour où on abandonne la métaphysique, vous tombez dans la relativité la plus absolue. Ça ne peut pas être autrement. Donc c'est le jugement d'existence, ceci est, et la découverte de la cinquième modalité de l'acte, ce qui est mu, qui est la cinquième modalité de l'acte, et qui fonde le jugement d'existence. Quand on fait la métaphysique de l'acte actuellement à Saint-Jean-d'Arc, ça me frappe beaucoup. Le fondement du jugement d'existence, c'est la découverte au plan métaphysique de cette cinquième modalité de l'acte qui fonde que ce qui est m'est donné dans le devenir. Pas en dehors, mais dans le devenir. Mais si le devenir existe, il est en acte. On a donc la cinquième modalité de l'acte, qui est un acte dans la puissance. Or, la puissance, c'est toujours subjectif. Il n'y a que l'acte qui est objectif. La puissance permet toutes les déviations. Et alors, c'est cette cinquième modalité de l'acte qui permet, et vous voyez, c'est la première voie de saint Thomas. La cinquième modalité. Comme ça, Kant dit la voie la plus commune, il n'a rien compris du tout. Parce que la cinquième modalité joint la connaissance, notre manière de connaître et l'intelligence. Tandis que l'être en acte, c'est un dépassement complet. Mais il y a l'être en puissance tout de suite. Et l'être en puissance est relatif à l'être en acte. Tandis que dans la cinquième modalité de l'acte, l'acte lui-même est découvert dans, dans le mouvement. Donc dans la puissance. L'acte de ce qui est en puissance. C'est très très calé. Là, ça fait comprendre cette fameuse affirmation d'Aristote que j'avais toujours beaucoup de peine à comprendre. Ces deux aspects, quand il met que l'acte, que la puissance est vers l'acte et que l'acte est dans la puissance. Vous savez quoi, ça va pas. Et oui, cinquième modalité. Il a tout pillé. Il ne l'explique pas. Là, nous mettons très très longtemps avant de le comprendre. Ça, c'est le prof d'Aristote. Oui.
Donc, c'est le procès, le haine dont parle Aristote.
Oui, c'est ça. Le procès, le haine. Et il dit ça. Vous voyez, alors, le procès, le haine, il touche les deux extrêmes. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. Et dans le devenir, l'acte est dans la puissance. Alors, vous essayez de comprendre ça. À propos, je me souviens, avec notre chère Laurité, on avait essayé de piger ça par la découverte de l'acte de la puissance. On ne comprend rien du tout. Alors, on avait dû faire une herméneutique invraisemblable. Tandis que dès que vous comprenez cette cinquième modalité de l'acte, on voit tout de suite. Puisque l'acte est dans la puissance. Et c'est le propre du devenir. L'acte dans la puissance. Et c'est la modalité, vous voyez, de tout. C'est ça qui fonde toute la philosophie de la nature. Toute la philosophie de la nature est fondée là-dessus. Elle n'est pas fondée sur les sensibles propres. Elle est fondée sur la métaphysique de l'acte. Dans le devenir. S'il n'y a pas la métaphysique, il n'y a pas de philosophie. C'est bien simple. Alors c'est très difficile, c'est pas une subalternation. C'est beaucoup plus. C'est un petit peu analogue à l'immensité de Dieu comme créateur. Oui. Il y a une analogie entre les deux. Dieu comme créateur est présent à tout ce qui est. L'être en tant qu'il est présent à tout ce qui est. Et tant que je n'ai pas saisi l'être, je ne saisis pas le point de vue. Mais ce n'est pas une subalternation. Ne disons pas que la philosophie de la nature est subalterne à la métaphysique, comme certains le disent. C'est faux. La philosophie de la nature n'est intelligible, n'est philosophique, que quand je saisis l'acte dans la puissance. Lecture métaphysique du monde physique. Mais faisons attention, ce n'est pas une lecture métaphysique. Lecture philosophique du monde physique. Et quand je dis philosophie, l'être, jugement d'existence. Ça, c'est très impressionnant. Je suis très impressionné par ça.
Oui. Et est-ce que je ne saisis pas déjà avant d'induire l'être en acte?
Ah, oui, puisque forcément, dès que vous saisissez la saisie de l'être en acte et la cinquième modalité fonde, justifie au plan critique. Au plan critique, mais au plan de la saisie, le jugement d'existence m'est donné en premier lieu, puisque je ne fais rien sans le jugement d'existence. Mais toute ma philosophie repose sur le jugement d'existence. Alors la mise entre parenthèses du jugement d'existence depuis Occam, parce que c'est Occam qui a fait ça, aboutit à Hegel. n'aurait pas existé, Luther n'aurait pas existé, et Hegel n'aurait pas existé. C'est pas Luther qu'il faut regarder pour comprendre Hegel, c'est Occam. La mise entre parenthèses du jugement d'existence. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de philosophie. Il n'y a plus de métaphysique, a fortiori, mais il n'y a plus de philosophie. Alors, c'est ça qui est très très difficile. Vous comprenez? La philosophie de la nature part de ce qui est mu. L'expérience de ce qui est mu. Personne ne peut mettre en doute l'expérience de ce qui est mu. Dans notre monde physique, tout le temps. Depuis la première expérience du matin où l'on boit son café, le café est mu. Pas de pareil. Il passe d'un robinet à un autre robinet. Ce qui est mu. Et quand vous prenez votre café, vous dites pas de pareil. Ça coule. Alors, le pan d'areille demeure dans le pan d'areille. Vous voyez ? Parce qu'il n'y a pas de jugement d'existence explicite. Et ce qui est mu peut être étudié philosophiquement, parce que vous voyez tout de suite que dans ce qui est mu, il y a deux contraires et un sujet. Voilà la structure intelligible de toute la philosophie de la nature. Les deux contraires et un sujet. Le livre premier, si important, de la physique. C'est une simplicité remarquable. Vous comprenez que l'intelligibilité de ce qui est mu est deux contraires. Donc, ils sont tous les deux positifs, les deux contraires. C'est l'avantage. Ils sont dans un sujet. Et ils s'opposent. Si l'un existe, l'autre est renvoyé. Si tu habites au second étage, tu n'habiterais pas au premier. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Premier moment de charité fraternelle. C'est fondamental. Mais Abraham, Lot. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Quelle espèce d'importance. Les contraires s'édifient mutuellement. S'opposent. À droite et à gauche. Vous comprenez ? Puis le sujet, ce qui est vu. Alors, c'est toujours par rapport à l'être. Évidemment. Et seul le sujet existe. Et les contraires comme contraires sont des formes. Et comme on idéalise facilement le mouvement. Parce que seul le sujet existe, ce qui est. Le mouvement d'existence est là présent, grâce au sujet. Alors, c'est là, à partir de là, je cherche quel est le principe propre, parce que ça, c'est la structure critique de l'intelligibilité. Il y a une intelligibilité propre à la philosophie de la nature. Le mouvement implique en lui-même une intelligibilité propre. Parce que la puissance est dans l'acte. Et l'acte est dans la puissance. Il y a quelque chose de mutuel entre les deux. Oui. Alors, il y a une intelligibilité propre, cette intelligibilité. Je vais en chercher le principe, je découvre la nature. Alors, la nature est-elle les contraires, est-elle le sujet ? Si je regardais le lien entre le livre premier et le livre 2. La nature, elle n'est ni le sujet, ni les contraires. Au même niveau d'intelligibilité. Elle est au niveau de l'intelligibilité philosophique, du principe propre, du sujet. Il n'y a pas de sujet sans nature. Et parce qu'il n'y a pas de sujet sans nature, toujours, et la nature n'est pas le sujet. Je peux préciser dans la nature le point de vue matière, le point de vue forme, Donc vous comprenez que la nature, que la matière va permettre à la nature d'être sujet, et la nature forme me fait comprendre les deux contraires. Et vous retrouvez, voyez, matière, forme, nature. Il y en a encore trois. Parce que c'est vrai, la nature n'est pas la forme, et la nature n'est pas la matière. C'est l'intérieur de la nature que vous découvrez, nature, matière, nature, forme, ce qu'on devrait toujours dire du reste. Donc on va dire matière et forme. Je peux dire matière et forme au niveau artistique, mais pas au niveau de la philosophie de la nature. Au niveau de la philosophie de la nature, je devrais toujours dire nature, matière, nature, forme. C'est ce qui explique que Suarez n'a pas compris. Il a dit que la matière impliquait tout le temps le contraire. Et la matière au niveau philosophie artistique. Donc, il y a ça le diesti. Je passe au pose tout de suite. Ça qui est très curieux. Le diesti de la nature est tellement faible que tout de suite je passe en pause. Et bien, une fois que j'ai dit la nature marche, ça c'est encore un vivant, mais la nature de l'eau, la nature du caillou, oh, ça va pas très loin. Hein. Je comprends très bien qu'on a mieux regardé la chimie, c'est plus intéressant. Là c'est très... Il y a très peu de choses, hein, comme contenu intelligible. La matière est tellement forte. En réalité, intelligible, sans le point de vue de la matière forte. Tout de suite, je pose. Vous avez les quatre éléments. Vous avez le cinquième. Alors, les quatre éléments ne sont pas au niveau des principes. Ils ne sont plus au niveau des principes. Ils sont au niveau de la réalité existante. Donc les quatre éléments ne pourront se comprendre qu'à partir des propriétés. Donc à partir des sensibles. C'est la différence de la nature. La nature dépasse le point de vue des sensibles. Elle est au niveau de ce qui est en acte dans la puissance. Ce qui est en acte dans la puissance, c'est la nature. Oui, alors, comparativement à la métaphysique, je ne dirais pas que c'est le pose de la métaphysique, car on deviendrait science subalternée. Je comprends le devenir. C'est le devenir qui m'intéresse, pas l'être. À partir de ce qui est mu, je découvre la nature. La nature ne me dit pas ce qui est, mais elle me dit ce qui est mu. Vous voyez ? Donc, comparativement à l'analyse métaphysique, c'est un pose. La nature, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être, c'est pas l'être. C'est une manière d'être. C'est tout le grand problème d'Aristote, vous voyez, de voir le passage de la nature à l'esprit, au nous. Est-ce que le nous, c'est encore une manière d'être, ou est-ce que le nous, c'est l'être? Le problème de Descartes. Pour Descartes, le nous, c'est l'être. Pour Platon, le nous, c'est l'être. Pour Aristote, le nous, ce n'est pas l'être. C'est courageux d'avoir dit ça, vous savez. À partir de là, je comprends très bien. Vous voyez, il est matérialiste. Très facilement, on considère que le spiritualisme, c'est identifier l'esprit à l'être. Alors à ce moment-là, vous identifiez le spiritualisme et l'idéalisme. Ne sont spirituels que les idéalistes. Les mystiques. Là. Oui.
Mais on ne peut pas dire non plus que l'esprit soit une manière d'être.
Hein? Est-ce que l'esprit que vous saisissez, vous pas de l'esprit? Alors, la ratio de l'esprit peut être substantielle en Dieu. Mais alors, pourquoi ne sait plus rien?
Oui, parce que je n'ai pas d'expérience d'esprit séparé.
Quoi?
Je n'ai pas d'expérience d'esprit séparé.
J'ai l'expérience de mon esprit. C'est suffisant. Parce que mon esprit existe. Mais je peux saisir la ratio intellectus. Vous voyez, c'est comme vous n'avez pas l'expérience de l'être séparé. Vous avez l'expérience de l'être dans le lui. Vous avez l'expérience de l'esprit dans un raisonnement, dans un devenir. L'esprit comme tel n'est pas lié au devenir. Mais c'est la confusion, je crois, des gueules. L'esprit est lié à un processus. L'esprit, à la différence de la matière qui est mue, l'esprit se meut. Voyez, le processus dialectique est immanent. Alors il se meut et il devient. À la différence d'Aristote, qui fait que je deviens intelligent. Heureusement, pour ça qu'au bout d'un certain temps, on devient intelligent. On n'est pas né avec le concept d'être. Le petit enfant à 4 ans dans le berceau, il n'est pas métaphysicien. Contrairement à ce que Maritain pense. Non. Il est du temps à être métaphysicien parce qu'il faut arriver à séparer l'intellectus qui existe toujours dans la raison, qui existe toujours dans un processus de croissance, il faut arriver à le séparer de ce mouvement pour saisir la ratio intellectus. Or, est-ce que je peux saisir la ratio intellectus directement sans passer par l'être? Toute la question est là. Ce n'est que dans la mesure où je saisis ce qui est comme être que je saisis l'intellectus séparé de la raison et que j'entre en métaphysique. Alors que je crois que pour Hegel, c'est l'intelligence qui réfléchit sur elle-même et qui se développe. C'est dans son développement, dans son propre développement, qu'elle est elle-même.
Si l'esprit est une manière d'être et la nature aussi, est-ce que la personne aussi est une manière d'être?
C'est pas beau. Ça.
Alors quel est l'ordre entre les trois?
Il faut le préciser justement. Vous savez, je prends le pose premier, le plus élémentaire, l'élément. Donc prenons la terre. Ça, c'est vraiment l'élément le plus élément, si j'ose dire, physiquement. Puisque le feu, c'est encore un élément, mais un élément aérien. C'est un élément qui... Tandis que si la philosophie de la nature, c'est nature-matière, c'est évidemment la terre qui me donne le plus le sens de la philosophie du mouvement. De la philosophie de la nature. La nature est liée à la terre. Et c'est la terre qui, pour moi, est le sens premier de la matière. Et c'est pour ça que c'est le toucher. Parce que le toucher est lié à la matière. C'est ça le point de vue le plus élément. Ça, c'est le premier pouce. Selon l'ordre génétique. Le dernier en métaphysique. On va mettre la personne. Personne humaine. pose suprême. Et ce pose suprême inclut la matière. C'est encore un pose que j'expérimente. Donc ça pose je suis. La matière ne dit pas je suis. La terre est au service de la femme. Parce que la terre ne dit pas je suis. C'est grâce à ça qu'elle vient au service de la femme. Elle est mue. Uniquement mue. Donc elle est un serviteur par excellence. Là que je suis. Alors, l'esprit, la personne implique nature et esprit. Donc la nature, terre et l'esprit. La nature, terre, le toucher. Pas de personne sans le toucher. Et l'esprit, l'être, le bien. Puisque l'esprit implique les deux, l'être et le bien, les deux extrêmes. L'esprit, je le saisis moi dans ma connaissance. Je ne saisis pas un esprit substantiel. Je saisis un esprit dont les opérations sont accidentelles. Vous voyez, c'était depuis Descartes où on parle de la substance pensante. C'est pour ça que Descartes est un élément essentiel vis-à-vis de Hegel. La substance pensante. Tandis que pour nous, notre esprit n'est pas une substance pensante. C'est une puissance par rapport à notre substance. Donc, ce sont des opérations accidentelles qui sont saisies dans un devenir. Et non pas dans l'être, dans la substance. Ce n'est rattaché à la substance. Il y a un lien plus particulier entre ce devenir de l'esprit et le devenir de la matière par rapport à la substance. C'est plus immédiatement relié à la substance. Mais c'est quand même toujours dans le devenir, mes opérations intellectuelles et mon amour spirituel qui définit mon esprit. Donc, l'esprit de l'homme. La philosophie du vivant. L'esprit au plan métaphysique. Au point de vue de la vie, je saisis l'esprit comme un absolu. Rien n'est au-delà de l'esprit. Comme une immanence absolue. Je crois qu'on peut dire ça. C'est dans l'esprit que la vie se réalise parfaitement. C'est dans l'esprit. Dans l'esprit, la vie est parfaite. Mais l'être n'est pas parfait. Et c'est pour ça que je dis toujours, à Hegel, la confusion entre l'être et la vie. Blocage. Tandis qu'au point de vue de l'être, l'esprit apparaît comme se développant dans un devenir. Donc il n'est pas premier. Il est lié au devenir. Mon esprit, tant du côté de l'intelligence que du côté de l'amour, est toujours lié à une croissance. Je ne peux jamais dire, maintenant j'ai la connaissance parfaite, je m'arrête. Jamais. Je cherche toujours, 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 toujours. Et au moment où vous vous arrêtez, vous êtes un Bouddha. ça va plus. Il y a quelque chose qui va plus. Vous ne vivez plus. Et vous allez décroître. La vie s'est toujours donnée dans un devenir et dans une croissance. Donc vous voyez, au point de vue de l'être, l'esprit est accident. Et c'est ça, j'allais dire, le drame métaphysique. C'est que je ne peux être finalisé que d'une manière accidentelle. Et c'est en ce sens-là que je n'ai pas le bonheur parfait. Être finalisé dans une potentialité, ce n'est pas être pleinement finalisé. Donc ce n'est pas le bonheur. Il n'y a pas de bonheur sur la terre, au sens absolu. Il y a des moments où il y a un peu de ciel bleu. Mais la plupart du temps, c'est la bouillie. C'est le crachat. Crachat breton. Et c'est ça. Parce que de fait, c'est dans le devenir. Donc au point de vue de l'être, l'esprit n'est pas une modalité de l'être. La vérité est un mode de l'acte. Mais la vérité n'est pas mon esprit. Je ne suis pas la vérité. Quand Jésus dit que je suis, qu'il est la vérité, il veut montrer que son intelligence, parce qu'elle est divine, est substantielle. Personne d'entre nous peut dire « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Je suis la vérité. Écoutez-moi, vous serez dans la vérité. Non. Nous cherchons la vérité. Nous tendons vers la vérité. Vous voyez cette chose curieuse, hein? C'est qu'à l'intérieur de l'opération intellectuelle, vous touchez une modalité de l'acte. Donc, vous touchez une modalité de l'être. Mais vous la touchez toujours dans le devenir. Donc, l'esprit, mon esprit, n'est pas une modalité de l'être. Et c'est pour cela que je ne peux pas, par l'esprit, remonter jusqu'à Dieu. Contrairement à ce que fait Descartes. Je ne peux remonter jusqu'à Dieu que par le point de vue de l'être. Parce que là, je saisis quelque chose de substantiel. Vous voyez ça? Alors, revenons à la lumière. Donc, le mouvement circulaire que je constate, pas nier qu'il y a un mouvement circulaire du soleil régulier des étoiles. Je ne peux pas le nier. Je pourrais critiquer avec les instruments montrés par le point de vue des sensibles communs qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Pour moi, ça confirme que c'est une nature matière. Et ceci confirme que ce n'est pas la quintessence du côté de la matière. Aristote cherche la quintessence du côté de la matière. Moi, je cherche la quintessence du côté de l'acte. Vous voyez, c'est là la différence. Parce qu'Aristote cherche la quintessence du côté de la nature, donc du côté de la substance. Évidemment, c'est très très agréable. Si vraiment il y a une matière incorruptible qui se trouve dans les astres, ça donne à notre monde une stabilité extraordinaire, une perfection inouïe. C'est encore de l'idéalisme. Aristote est idéaliste dans la matière. C'est extraordinaire. Là, je comprends. Là, on peut critiquer Aristote. On peut le dépasser. Et ça va très loin. Regardez, Aristote est idéaliste en la matière. Puisqu'il fait la quintessence. Et la quintessence, c'est une matière incorruptible. C'est cette matière au-delà de la corruptibilité. Donc, c'est une matière qui absorbe les contraires. Tiens, voyez, qui fait la synthèse des contraires. Une matière idéalisée, une matière hegelienne. Elle absorbe les contraires. Puisque la corruptibilité, c'est que les contraires ne peuvent pas être en même temps dans le sujet. Ils ne peuvent pas cohabiter. Oui.
Ce que les physiciens appellent, donner l'explication des trous noirs en disant c'est une antimatière.
C'est
l'antimatière.
L'antimatière, oui, l'anticorps.
Des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer.
Oui.
C'est pas
irréductible. Ça, ça ne veut rien dire. Pour moi, l'antimatière, c'est la matière. La materia prima, c'est l'antimatière. C'est sûr. Et vous voyez, c'est dit dialectiquement. Quand je dis la matière première, c'est plus dit dialectiquement, c'est dit analogiquement. Mais la matière implique un fond qui est au-delà de toute intelligibilité. C'est pour ça que ça ne me trouble pas. Que même dans le mouvement régulier, il y ait des petits accros. Puisque la matière est présente. Et que ce n'est pas une quintessence. Donc l'irrégularité que vous voyez dans le mouvement circulaire des corps célestes, le fait qu'on dit que certains astres, certaines étoiles, certaines sont mortes, vous voyez, antimatière. C'est pas ce que c'est, du reste. Hein. C'est fini comme quelque chose qui nous échappe. C'est ça que serait plus juste de dire. Quelque chose qui nous échappe. Et pourquoi ça nous échappe? Parce que les sensibles communs sont plus présents. Je ne peux plus mesurer. C'est un au-delà des sensibles communs. Puisque je n'atteins les sensibles propres que par les sensibles communs. Et les sensibles communs sont mesurables, alors que le sensible propre n'est pas mesurable. Là, vous voyez, quand on parle de antimatière, quand même on dit que ça existe. Donc, si on dit que ça existe, comment on dit que ça existe? Est-ce une expérience ou une induction?
C'est par les propriétés.
Quoi?
C'est par les propriétés.
Oui, donc c'est par une expérience.
C'est une induction, c'est à travers les propriétés.
À travers les propriétés, donc c'est une expérience.
On n'a jamais constaté, on n'a jamais trouvé. On a des indices uniquement.
Quoi? On dit que ça existe? Mais oui, mais pour dire que ça existe, il faut. Ou l'expérience, ou l'induction.
C'est hypothétique.
Ou une démonstration. Oui, c'est hypothétique. Oui. Je crois que c'est une hypothèse pour moi. Oui. Je crois que c'est une hypothèse. On ne peut pas dire que ça existe. Ça échappe au jugement d'existence. C'est une hypothèse. Et en hypothèse qu'on pose, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'explique pas. Des propriétés.
Du côté du temps, surtout, la mesure du temps.
Quoi?
Du côté de la mesure du temps, du côté des propriétés qui échappent, on ne peut pas mesurer.
Donc vous voyez, c'est des choses qui échappent. Et donc on pose une hypothèse pour expliquer ce qu'on n'explique pas. C'est ça. On pose, donc, je ne sais pas si ça existe. Je crois, hein, si on fait la critique au point de vue philosophique, point de vue scientifique, une hypothèse, si ça vérifie toutes les choses qu'on constate, ça devient une théorie. Et à partir de là, très bien, c'est d'entrer dans la science. Venez. C'est comme l'évolution, si vous voulez. L'évolution, c'est un peu la même chose. Il y a des phénomènes qu'on n'explique pas selon les lois habituelles, et donc on dit pas nécessairement quelque chose. C'est une hypothèse. Une hypothèse de recherche. Le fait de se vérifier devient théorique. Oui. Donc, c'est au fond, cette chose-là, pour moi, philosophiquement, ça repose sur le fait qu'il y a dans la matière, alors la matière existe, veut dire qu'elle existe dans mon corps, elle existe dans les vivants biologiques, elle existe dans notre univers. Et il y a dans la matière, philosophiquement parlant, quelque chose d'irréductible que je n'arriverai jamais à saisir. Pourquoi ? Parce que la matière prima est pure puissance. Donc, je dirais, toutes ces hypothèses confirment que la matière prima existe comme matière prima, vous voyez ? C'est-à-dire comme un principe ultime. C'est mon intelligence. Jamais d'expérience de matériel prima.
Qui n'est pas saisi par l'hypothèse.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qui n'est pas saisi par l'hypothèse.
Tout au-delà. Qui est dévoilé au principe fondamental. Mais qui est autour des satellites qui sont les hypothèses. Très bien. Les hypothèses, c'est les satellites de ce fondement. On tourne autour. On ne pénètre pas. Il y aurait des hypothèses et des théories.
Est-ce que l'esprit, du côté de sa puissance, n'est-il pas comme la matière première aussi ?
Qui ? L'esprit ?
L'esprit.
Oui, on a fait des analogies. Pour faire attention, c'est l'analogie de la puissance pure. Et Averroès en a fait une matière. Oui. Pour lui, le nous, pathétikos, est matière. Ça, c'est Averroès, hein, il matérialise. C'est pour ça que seul le nous actif est séparé. Mais au fond, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est qu'on n'arrive pas à concevoir l'esprit en dehors de la substance. C'est peut-être ça, vous voyez, qui serait la chose très importante à bien saisir. Parce que Descartes en fait la substance pensante. Et on est marqué par Descartes. Alors, est-ce que depuis Descartes, est-ce qu'on arrive à distinguer avec suffisamment de netteté la substance et l'esprit ? Vous voyez, ce serait même avant Descartes, Averroès. Ce serait intéressant de voir ça. Parce que la substance pensante, bon, c'est l'homme. Donc c'est lié à la matière. Et qu'au fond, on a beaucoup de peine à comprendre l'esprit en dehors de la substance. Alors où on en fait une substance séparée ? Dieu. Ou substance pensante, une espèce d'analogie de la matière première. Je crois que c'est là la distinction. Vous voyez ? Où Aristote tourne autour, il n'y arrive pas. C'est très curieux. Vous voyez ? Ces deux aspects où Aristote ne creuse pas assez le point de vue de la quintessence, qui le fait du côté de la matière une matière incorruptible. Alors que nous mettons la lumière du côté de l'acte, et pas du côté de la substance. Toute la question de savoir, c'est fondé sur quoi ?
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.